BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Aujourd'hui, on va parler des aidants. On parle beaucoup des jeunes parents, de leurs difficultés à mener de front carrière et vie familiale. Mais on parle assez peu de ceux qui aident un parent âgé ou même un proche en difficulté. 22% des salariés sont des aidants. C'est un vrai sujet d'entreprise. On va en parler à Catherine Distel, chargée des affaires sociales chez Eger Group, qui a mis en place des aides très concrètes. En deuxième partie d'émission, on sera avec Sophie Prunier-Poulmer. Elle est ergonome et maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Vous croyez qu'un ergonome, bah, c'est comme un chief happiness officer, mais en fait, ça n'a rien à voir et ça peut être très utile. Et puis, vous connaissez la voiture de fonction, le vélo de fonction. Est-ce que vous connaissez la plante verte de fonction? Eh oui, vous aviez un yucca au bureau. Eh bien, chez vous, il vous manque. Comptez sur Happy Boulot le mag pour vous donner quelques conseils. C'est parti.
BFM Business, Happy Boulot le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutive de la semaine, c'est Catherine Distel, chargée des affaires sociales chez Eger Group. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Eger Group, c'est un fabricant franco-allemand de matériel électrique. C'est un groupe familial, 11 500 employés dans le monde, 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En France, vous êtes 3 400, c'est ça?
C'est exact.
Donc, c'est quand même une bonne grosse PME. C'est une des premières entreprises labellisées pour son soutien aux aidants, car c'est notre sujet aujourd'hui. Ce sujet des aidants, c'est un sujet qui est venu du groupe, top down, et après qui est descendu, ou c'est un sujet qui est remonté des salariés et que vous-même vous avez porté?
Oui, tout à fait. En fait, c'est plutôt un sujet qui est venu du bas. C'est-à-dire que les salariés, que les collaborateurs que je peux rencontrer m'ont fait part de leurs problématiques, hein, ça rentre dans mes fonctions. Et au fur et à mesure des années, j'ai pris la mesure de cette problématique qui s'amplifie avec les années. Et c'est vrai que l'entreprise, Ager, m'a soutenue dans cette démarche de labellisation. Sans leur soutien, je n'aurais pas pu aller au bout de la labellisation.
Je le disais dans le sommaire, il y a 22% à peu près des salariés qui sont des aidants. Donc c'est une problématique d'entreprise très forte. On parle beaucoup des jeunes parents qui ont des difficultés à conjuguer vie familiale, vie professionnelle. Il y a un sujet sur les aidants qu'on ne prend pas bien en compte. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui mettent le sujet sur la table.
Oui, tout à fait. Ça ne s'entend pas encore beaucoup. Pourtant, la problématique est réelle et il faut vraiment en prendre la mesure, parce que c'est quelque chose qui va s'amplifier et on ne pourra plus passer à côté de cette problématique. Il est difficile pour un salarié de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle d'aidant. C'est très lourd à porter.
Qu'est-ce que vous aviez constaté au sein de vos rangs? Vous avez des salariés qui vous ont dit un jour, je ne peux plus en termes de charge mentale, d'organisation, ça pèse sur mon travail.
Tout à fait. Et le déclic, ça a été effectivement de rencontrer une salariée, une collaboratrice qui est venue me voir, qui m'a dit, je démissionne, je n'arrive plus à travailler, je suis fatiguée. Je viens en aide à mon conjoint qui a Alzheimer, donc qui me réveille toutes les nuits. Et je suis épuisée. C'est une personne qui était vraiment arrivée au bout de ses forces et qui avait décidé de démissionner. Donc je trouve, enfin, c'est très dommage qu'on doive en arriver là, et c'est pas normal. On devrait pouvoir concilier sa vie professionnelle avec son rôle d'aidant.
Et, ça, c'est en quelle année?
C'était à peu près il y a 3-4 ans.
Donc il n'y a pas de congé aidant comme c'est le cas aujourd'hui. Le sujet n'est pas vraiment sur la place publique.
Tout à fait. Alors le congé proche aidant existait déjà, mais il n'était pas rémunéré.
Oui, alors aujourd'hui il est rémunéré, mais à hauteur, c'est 43 euros pour les personnes vivant en couple, 52 euros si vous êtes seul. Donc régulièrement très inférieur au salaire que vous aviez auparavant. Ça peut durer 3 mois. Renouvelable, c'est assez strict, mais c'est 3 mois, c'est pas grand-chose.
C'est ça, ça peut aller jusqu'à un an.
Du coup, vous faites quoi? Parce que vous êtes devant le sujet et vous dites, qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour que cette salariée poursuive son activité?
Oui, alors je soutiens nos collaborateurs. Je vais d'abord voir en externe ce qu'il existe comme aide, parce que c'est souvent méconnu, hein, entre le congé proche aidant, le congé de solidarité, le congé de présence parentale, toutes ces aides sont méconnues des collaborateurs. Et si, une fois qu'on a exploré tout ça en externe, en interne, on a aussi des capacités de venir en aide. Nous avons été assez précurseurs déjà sur le don en congé. Le don au congé qu'on...
Vous pouvez donner des RTT à un salarié qui en a besoin?
Oui, des congés, des RTT. On pratique ça depuis les débuts du don de congé, donc en 2014. on a à peu près un appel au don par an.
Grosso modo. Et ça fonctionne. Les gens donnent leur congé.
Bien, ça fonctionne très bien.
Mais est-ce que vous avez beaucoup de congés? Parce que quand on a 5 semaines pile poil, oui, on peut être un peu juste quand même.
Ça passe, ça passe. Et les gens, les collaborateurs sont très généreux. Et quand on fait un appel au don, on récolte jusqu'à 100 congés pour une personne qui en a besoin.
Donc quand même de quoi s'arrêter un petit peu. Bon, c'est court-termiste, mais...
Ça peut aider provisoirement le temps de mettre d'autres choses en place.
Et alors, qu'est-ce que vous avez mis d'autre en place pour les aidants?
Alors, il y a l'aménagement du temps de travail. Il y a le télétravail, hein, qu'on faisait déjà de manière ponctuelle avant la crise sanitaire, ouais, et qu'on est en train d'organiser et de formaliser un peu plus. Quand les personnes travaillent en équipe au niveau de la production, ils ont la possibilité de changer d'équipe, donc en accord avec le manager et le responsable ressources humaines du secteur.
Est-ce que quand vous avez commencé à réfléchir à cette question de l'aidant, vous avez libéré une partie de la parole? Parce que je crois que vous avez fait une étude en interne et vous êtes aperçu qu'il y a plein de gens qui étaient aidants, mais qui ils se stigmatisent pas sous ce terme-là. Ils aident les gens de leur famille, ça fait partie du quotidien, mais ils sont pas aidants au sens défini du terme.
Ils se reconnaissent pas en tant qu'aidants. C'est vrai que nous avons lancé un questionnaire fin de l'année dernière pour. Alors il était tout à fait anonyme, mais les personnes avaient la possibilité de s'identifier. Et donc on a lancé ce questionnaire auprès des 3400 collaborateurs français. Il est remonté que 22% des personnes étaient quand même aidants dans l'entreprise. On se situe dans la moyenne nationale qui se trouve entre 20 et 25%. Et c'est vrai que 90% des personnes ne reconnaissaient pas ce terme d'aidant. Ils ne s'identifiaient pas en tant qu'aidants. Et 65% ne savaient pas qu'ils étaient aidants parce que pour eux, c'est un devoir d'aider un proche et c'est tout à fait naturel.
Du coup, vous avez libéré en partie la parole, j'imagine.
Oui, parce que depuis qu'on a lancé ce questionnaire et communiqué aussi sur l'aidant et les aides qu'on peut apporter, c'est vrai que les collaborateurs viennent plus facilement nous voir et disons que leurs craintes sont tombées parce que évidemment il y a la crainte du est-ce que ça va freiner mon évolution professionnelle.
C'est comme tous les sujets personnels, il y a un côté je dévoile quelque chose dans mon intimité, je me mets un peu en risque.
Tout à fait. Mais ils ont compris l'intérêt de venir nous voir puisqu'on peut leur venir en aide à la fois en interne dans l'entreprise et avec des organismes externes.
Il y a l'aide, il y a le côté salarié. Est-ce que vous avez dû, avec les managers aussi, mettre en place une politique de sensibilisation, d'explication, de gestion des équipes?
Alors, pour l'instant, les managers étaient sensibilisés, au même titre que les salariés de l'entreprise. Mais c'est vrai que là, cette année, lors de la journée nationale de l'aidant,
Début octobre, ouais.
C'est ça. Nous avons organisé une conférence, mais alors dédiée aux managers, sur le thème comment reconnaître un aidant et l'approcher. C'est une première étape.
Et alors, ils apprennent quoi? C'est vraiment de la sensibilisation? Comment réussir à parler? C'est ne pas blesser?
Tout à fait.
C'est difficile pour un manager qui n'est pas un psy, hein, qui est d'aller comme ça dans la sphère privée du salarié. Il y a un fil à ne pas dépasser, ça ne doit pas être simple.
Oui, non, c'est clair. Alors, le manager va... Il y a des détecteurs qui va devoir actionner, c'est-à-dire si un collaborateur est fatigué, s'il se renferme, il y a peut-être ce côté aidant qui n'ose pas dire.
Donc, il y a des warnings, il y a des petits signaux auxquels il faut faire attention.
Tout à fait. Et donc il va approcher le collaborateur puisqu'il est sur le terrain, donc très proche du collaborateur. Et sa première démarche, c'est d'essayer de savoir si vraiment, effectivement, il est en train d'aider un proche. Si c'est le cas, évidemment, c'est pas lui qui va solutionner le problème. Il va plutôt m'envoyer le collaborateur.
Vous n'êtes pas DRH, vous occupez des affaires sociales, mais est-ce que vous pensez que d'avoir mis en place une politique d'aide pour les aidants, ça joue dans l'attractivité de l'entreprise?
Ah, tout à fait. Oui, bien sûr. Aguerre Group est une entreprise familiale qui pense à long terme. Ça implique de prendre en mesure le bien-être de ses collaborateurs. Et c'est vrai que ça rend l'entreprise plus attractive aussi par rapport à ça.
Vous n'êtes pas des RH, mais vous aurez quand même le droit au quiz RH que tout le monde fait. Vous allez me dire si on continue, on arrête, vous me dites stop ou encore, les reportings, stop ou encore.
Encore.
Encore les reportings. C'est horrible. Les horaires, stop ou encore.
Encore.
Les tests de personnalité, il y en a chez Hager Group ou pas?
Il doit y en avoir. Après, ça c'est du domaine du recrutement. Donc,
Les Zooms, les Teams, les conf-calls, stop ou encore?
C'est pas mal vu la période confine. Qu'on peut vivre. C'est très pratique, effectivement.
Les Chief Happiness Officer, est-ce que vous avez ça chez Hager?
Pas particulièrement. Alors, je suis well-being spécialiste, donc ça rentre peut-être
en jeu. C'est vous, en fait, le Chief Happiness Officer. Ça fait partie de votre boulot. Mais il n'y en a pas un dédié. Non. Ça veut dire que c'est une activité qui peut rentrer dans votre core business, mais c'est pas... Les baby-foot, il y en a?
Oui. Ah, on en a deux.
Oui. Deux, c'est pas mal quand même.
Oui, c'est pas mal.
C'est plus la mode, hein. C'est fini. On les enlève maintenant, les baby-foot.
Oui.
LinkedIn, vous êtes sur LinkedIn?
Oui, depuis récemment.
Vous avez quelle consommation? Vous êtes tous les jours
Alors en ce moment, oui, parce que je suis pas mal quand même sollicitée tous les jours, là. Donc oui, c'est...
Vous répondez c'est sur LinkedIn récent. Si on vous envoie des messages et tout, vous arrivez à suivre?
Oui.
La bienveillance, on continue ou pas?
C'est important.
Vous avez l'impression qu'il y a eu une révolution quand même au sein de l'entreprise sur la question de la bienveillance? La crise sanitaire a aidé, mais c'est quand même une tendance de fond qu'il y avait depuis quelques années.
Oui. Tout à fait.
Merci beaucoup Catherine Distel d'avoir été avec nous, chargée des affaires sociales chez Hager Group. On va parler ergonomie. Vous avez un ergonome à temps plein chez
Hager
Group?
Oui, on en a plusieurs.
Ah, plusieurs, bah oui. Et ça n'a rien à voir avec le Chief Happiness Officer, c'est notre sujet dans la deuxième partie d'Happy Boulot le Mag.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. Better Together.
Et on va parler économie, ergonomie avec Sophie Prunier-Poulmer, ergonome et maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Bonjour.
Bonjour Laure.
Alors c'est quoi un ergonome? Quel rapport avec le Chief Happiness Officer? Aucun, vous allez me dire. Et qu'est-ce qu'il fait au quotidien?
Alors déjà, je vous remercie de m'accueillir pour pouvoir parler ergonomie parce qu'on a très souvent une vision assez faussée ou assez tronquée de ce que fait un ergonome et de cette discipline. Donc souvent, on imagine que l'ergonome adapte la hauteur des chaises, des tables, la distance œil-tâche dans un processus de travail. Et en fait, l'ergonomie fait bien plus que ça. Et l'ergonome, d'ailleurs, bien plus que ça. Donc en fait, être ergonome, c'est analyser les situations de travail dans leur ensemble, avec l'ensemble des composantes qui constituent une situation du travail, management, effectivement, aspect matériel, etc., dans un objectif qui est de transformer le travail et avec un ultime but qui est de préserver la santé des salariés, mais également la santé économique de l'entreprise. En insistant sur le fait que les deux ne sont pas antagonistes, mais peuvent aller de pair dans un même mouvement.
Le travail réel, c'est-à-dire pas seulement la fiche de poste, vraiment les petites habitudes, les petites manies, vraiment la journée telle qu'on la vit.
Absolument. Le principe de l'ergonome, c'est d'aller observer, comme vous l'avez dit, non pas le travail prescrit sur les fiches de poste, comme vous le disiez très justement, mais en situation réelle de travail, in situ, sur le site, sur le terrain.
Donc on essaie... qu'il y a une phase d'observation, d'enquête, où l'ergonomie regarde juste?
Absolument. Il y a d'abord une analyse documentaire qui nous permet de prendre connaissance de la manière dont fonctionne l'entreprise, le secteur d'activité, le service, le bureau, l'usine, la chaîne de montage, par exemple, et qui nous permet déjà de nous familiariser avec ce contexte. Et puis ensuite, nous avons des entretiens avec les différents responsables qui portent une demande sociale. L'ergonome intervient toujours à partir d'une demande qui lui est formulée, qui la plupart du temps, c'est des questions de conception, reconception, amélioration des conditions de travail. Et à partir de là, ces entretiens, il étoffe, disons, sa vision générale de la situation. Et clé de voûte fondamentale de l'ergonomie, l'ergonome descend sur le terrain pour observer la manière dont le travail est réellement effectué.
Alors là, avec le télétravail, il faut descendre dans l'entreprise et après suivre les salariés jusqu'à chez eux?
Alors ça, ce n'est pas encore possible, alors je vous le dis. Ce n'est pas prévu au programme. Mais par contre, les demandes concernant les ergonomes n'ont cessé. Elles continuent, enfin disons, on continue à être alimenté de plein de questions, effectivement, face à cette nouveauté qu'est le télétravail. Le télétravail pendant le Covid n'était pas véritablement du télétravail. Je crois que tout le monde est bien conscient qu'il s'agissait plutôt de la continuité d'une activité professionnelle réalisée à domicile, avec tout le contexte spécifique, familial, environnemental que nous connaissions, et surtout le contexte très stressant de la perspective de cette pandémie. Mais les demandes continuent à affluer parce que très souvent, le télétravail se développe à côté d'autres modes d'organisation dans l'entreprise. Et l'organisation, c'est aussi, je dirais, le secteur d'activité privilégié de l'ergonome. Donc, il y a du télétravail, mais en même temps, dans les entreprises, s'instaure le flex-office, des open space, puisqu'il est question d'aménager les locaux et le travail différemment. Donc, les demandes continuent à affluer pour savoir comment est-ce qu'on peut organiser ces deux modes de fonctionnement de l'activité, à domicile chez le salarié, mais également en entreprise, pour faire en sorte que la continuité du service soit la plus efficace.
Alors, c'est quoi votre constat, là, à la rentrée on est en reprise au moment où on enregistre de crise sanitaire. C'est quoi le constat dans l'organisation du travail? Nous, on parle à une population de cadres, hein, plutôt. Oui. Dans la réorganisation de leur activité, qu'est-ce qu'ils font comme ânerie? Qu'est-ce qu'ils font bien?
Alors, ânerie, je ne me permettrai pas de juger, bien évidemment.
On fait ce qu'on peut, mais...
On fait ce qu'on peut, ça, je suis d'accord avec vous. Déjà, ce qu'on constate, c'est que les salariés ont un peu de mal à revenir en entreprise. Alors, oui, la situation n'est pas en voie d'amélioration, semble-t-il, en France, et de nouvelles mesures sont prises. Il y a une incitation pour les cadres et pour tous les travailleurs qui peuvent continuer leur activité à domicile d'y rester. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt une interrogation sur la manière de ramener les salariés en entreprise une certaine partie de la semaine, et des interrogations sur, faut-il télétravailler 2 jours par semaine, 3 jours par semaine? Parfois, on voit la totalité du temps.
Ouais, c'est de plus en plus rare, hein. Ça, c'était dans le monde d'avant du mois de juin.
C'était le monde du mois de mars et du mois de février.
Retour du confinement, beaucoup d'entreprises ont dit on va passer au 100% télétravail. Là, franchement, on les entend un peu moins. Hein.
On les entend un peu moins, effectivement, revendiquer cette idée, mais elle est posée. Et effectivement, la question est de savoir quels sont les motifs qui peuvent amener, enfin, les stimulations, la manière dont on peut stimuler les salariés pour revenir dans une entreprise. On a quand même mesuré au travers de cette expérience la valeur de la relation sociale, la valeur de la relation humaine. Comment ramener les salariés pour essayer de compenser ce qui se passe lorsqu'on passe 2 ou 3 jours en télétravail chez soi, la plupart du temps en travailleur solitaire, pour que, en fait, lorsqu'on revienne dans l'entreprise, on puisse gagner du temps sur la mise à niveau des connaissances, sur le partage d'expérience, sur ce partage des astuces de métier dont vous parliez lors, en ouvrant cette séquence. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on réorganise tout ça pour qu'on ait du plaisir à venir au bureau sans que nous soyons les uns et les autres encore une fois dispersés?
Et là, l'ergonome a sa place. Il peut arriver en conseil.
L'ergonome intervient souvent en conseil. Vous savez, l'ergonomie se pratique au moins dans 3 lieux. Vous avez des ergonomes qui sont conseils, donc dans des cabinets de consultants en ergonomie, en ressources humaines de manière générale, mais vous avez des ergonomes en interne, donc les grandes entreprises ont des ergonomes évidemment en leur sein. Vous avez des ergonomes qui travaillent pour des institutions, l'Institut National de Recherche et Sécurité, l'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail, puis vous avez des chercheurs, comme moi, en ergonomie qui travaillent aussi, il y en a d'autres certainement.
Donc vous travaillez aussi à l'université, donc il y a des filières d'ergonomie spécifiques, il y a peut-être des étudiants en RH qui nous écoutent, et il y a de plus en plus de monde.
Il y a de plus en plus de monde parce que la préoccupation, je trouve d'abord, beaucoup de thématiques nous ramènent aux questions économiques et aux questions sociales, que la question du travail est une question centrale, elle fait société, donc beaucoup de monde se préoccupe de l'évolution du travail, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que c'est que l'avenir, comment travaillerons-nous?
Mais justement, là, vous aviez des étudiants en septembre dernier qui choisissent ce type de filière, ils disent, je vais étudier l'organisation du travail, ils se mangent la crise sanitaire, même dans les entreprises, on sait pas où on en est, donc les étudiants qui étudient l'organisation du travail doivent être complètement perdus.
Ça a été très compliqué, pour répondre à votre première question sur les filières. Oui, il y a 10 formations aujourd'hui en France habilitées à délivrer un diplôme d'ergonome. Donc souvent, c'est des psychologues du travail qui s'orientent au moment où ils arrivent en Master 1 vers un Master 1 et un Master 2 en ergonomie. Donc c'est une spécialisation, je dirais, de 3e cycle. On a de plus en plus de demandes parce que les questions de travail, de santé font des préoccupations principales, en particulier risques psychosociaux, troubles musculo-squelettiques. Donc on voit que toutes ces thématiques sont de plus en plus présentes. Les demandes affluent, donc on a effectivement des étudiants qui viennent de plus en plus nombreux vers nous, ce qui est une très bonne chose.
Et les débouchés, vous disiez, il y a 4 endroits où un ergonome peut travailler. On n'a pas de mal à trouver du boulot quand on sort de l'université.
Écoutez, je dirais que non, pour l'instant. On a eu des périodes très fastes et des périodes un peu plus creuses. Le contexte aujourd'hui, évidemment, est un peu difficile. Vous le connaissez, c'est une crise qui n'est pas qu'une crise sanitaire. On le sait, c'est une crise économique
majeure. Oui, mais il y a aussi des besoins.
Mais il y a des besoins, et en particulier sur ces questions de réaménagement de temps de travail, d'espace de travail, d'organisation du travail. Donc je suis assez confiante, et c'est vrai, vous le disiez, ça a été difficile pour les étudiants, parce que, comme vous l'aurez compris, l'ergonomie et son cœur de métier, c'est observer le travail réel, dès l'instant où nous avons été confinés, faire des stages ou exercer une admission, ça a été super compliqué. On ne pouvait plus aller observer
sur
le travail.
Sur Teams, on observe le travail sur Teams.
C'est une autre manière.
On voit d'autres choses. Hein. Merci beaucoup Sophie Prunier-Poulmer d'avoir été avec nous. Ergonome, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Vous connaissiez la voiture de fonction, vous connaissez aussi peut-être le vélo de fonction. Là, on va parler de la plante verte de fonction. A tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Est-ce que vous connaissez la télévégétalisation? Ça a l'air drôle comme ça, mais c'est très sérieux. Bonjour Cyril Schwartz.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de Corporate Garden. Vous voulez télévégétaliser les bureaux. Qu'est-ce que c'est?
C'est tout simplement d'accompagner les collaborateurs chez eux en télétravail avec et par le végétal.
Ça veut dire, j'ai une plante verte au bureau, j'ai un yucca que j'aime bien, qu'est-ce que je fais? Il me suit, on me le prête, ou c'est il y a des murs de verdure dans les halls d'immeubles, il va y avoir la même chose chez moi parce que ça me manque.
En fait, vous savez, une majorité d'entreprises que vous recevez sur votre plateau ont mis en place des plans QVT, comme on dit, qualité de vie au travail, et puis crise sanitaire aidant, le télétravail prend de l'importance, donc le QVT devient QV2T, comme vous avez déjà entendu parler, qualité de vie en télétravail. Et donc l'entreprise s'interroge sur la manière d'accompagner ses collaboratrices et collaborateurs à la maison. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des plantes, des plantes d'intérieur, adaptées aux contraintes de mobilité dans les grandes villes, bien sûr, pour que le collaborateur puisse, partant en télétravail, choisir la plante qui lui plaît bien, l'emmener à la maison, vivre avec, ce qui, au passage, permet de garder un lien.
Mais il faut qu'il demande l'autorisation, parce que si on parle avec son yucca...
Oui, il demande l'autorisation parce que c'est une sélection particulière en fonction de la saison, en fonction d'un certain nombre d'autres contraintes, pour que le collaborateur, ensuite, en prenne soin, ce qui est important, ça lui permet d'avoir une relation avec le vivant qu'est la plante, et puis il le ramène, et puis peut en prendre une autre. Et on a mis en place, notamment chez Superprof, cette démarche. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça crée, au-delà du lien que ça génère à distance entre l'entreprise et l'individu qui travaille de chez lui, parfois dans des contraintes, dans des conditions difficiles, eh bien, il y a une notion d'échange qui se passe, comme une sorte de bourse d'échange. C'est-à-dire que je ramène ma plante, et toi, tu ramènes la tienne, et je prendrai la tienne la semaine prochaine. Donc, c'est une manière aussi pour nous qui faisons la promotion du végétal dans les entreprises.
C'est la biophilie, hein, c'est ça?
Ah oui, la biophilie, c'est vraiment, vous savez, ce lien inné que vous avez, que j'ai, que nous avons tous par rapport à la nature.
Mais vous les développez au sein de l'entreprise.
Au sein de l'entreprise, sous différents formats, en aquaponie par exemple, ou en hydroponie. Mais là, il s'agit plutôt de prolonger la QVT chez le salarié pour l'aider à prendre possession de ce nouveau cadre de travail.
Mais c'est-à-dire que vous, en tant qu'entreprise, bon, vous essayez de développer cette biophilie au sein des entreprises. C'est quoi votre constat? Vous dites, le télétravail, c'est un coup d'arrêt un peu à cette démarche des entreprises. Coup d'arrêt pour vous aussi, parce que ça fait des clients en moins. Donc, il faut trouver une sorte de... D'autres moyens de mettre du vert dans la vie des gens?
Pas du tout. Il n'y a pas de coup d'arrêt. Au contraire, l'idée, c'est de contribuer à végétaliser les esprits. On a végétalisé nos assiettes, on a végétalisé nos villes. Il s'agit aussi de végétaliser nos espaces de vie et de travail. Donc, c'est dans la continuité, sauf qu'il faut s'adapter, évidemment. Donc, aujourd'hui, à la maison, il y a une grande tendance dans la mise en place de plantes dans les appartements, dans les studios, dans les maisons. Et ce qui est intéressant par rapport à avant, c'est qu'on prend conscience du rôle des services que nous apporte la plante, c'est plus qu'un élément de décor. On parlait plante verte il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, elle vient dépolluer, elle vient donner un peu plus d'humidité dans la chambre à coucher, dans le salon, etc. La même chose au niveau du bureau, où là aussi, on développe des présences végétales qui permettent de l'interaction. C'est ce qu'on appelle les potagers d'entreprise, dont vous avez déjà entendu parler. Et ça, c'est très important parce qu'on a perdu un peu en ville ce lien avec la nature. Et pourtant, vous parliez de biophilie, elle nous veut du bien et on se sent bien quand on est en présence de nature. Là, dans votre studio, on voit un peu de nature, c'est plus agréable que de voir un mur en béton.
Oui, enfin, on est à Ballard, c'est pas non plus...
Oui, mais il y a quand même un écran vert.
Mais c'est vrai,
il y a un écran vert.
Mais ça serait pas plus simple de faire exactement comme, je sais pas, le ticket resto et d'avoir un bon pour s'acheter des plantes vertes chez Villa Verde?
Pourquoi pas? On parle de plantes de fonction dans ces cas-là.
Mais non, parce que vous mettez en place un échange. Donc
Oui, alors c'est vrai que les premiers retours d'expérience, le collaborateur qui emmenait la plante chez lui, il voulait la garder. Mais si c'est un cadeau, ça n'a plus le même sens, parce que l'idée, c'est de s'inscrire ça dans la durée. Et ensuite, il voulait l'acheter. Et puis, au fil de l'eau, il comprend le sens, puisque le sens, c'est de nourrir la relation qu'il y a entre l'entreprise et son salarié qui est de plus en plus à distance et qui parfois inquiète un certain nombre de DRH.
Vous savez qu'on fait ça dans les classes de maternelle, c'est-à-dire qu'on donne une peluche et on se la passe comme ça, d'enfant en enfant, pour faire un lien. Ça me fait penser à ça.
Ben oui, à chaque fois qu'on arrive à créer une relation entre deux êtres vivants, que ce soit une plante et un être humain, ou deux êtres humains, je pense que tout le monde en sort gagnant.
Très bien. Eh bien, écoutez, c'était quand même intéressant ce sujet sur les plantes vertes. On croyait que ça prêtait à rire, mais en fait, c'est très très sérieux, la plante verte au bureau.
C'est plus que sérieux parce que ça vous fait beaucoup
vital.
De bien.
Merci beaucoup Cyril Schwartz, fondateur de Corporate Garden, d'avoir été avec nous. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot le Mag, l'émission qui vous sort de votre boîte.